Voici l'enregistrement pour le poème de Guillaume Apollinaire, Le Pont Mirabeau, qui est le texte 4 dans l'étude sur les contemplations, parcours mémoire d'une âme, qui va donc avec Victor Hugo. Alors, introduction, je commence par la présentation générale. Apollinaire, qui est arrivé à Paris en 1900, fréquente les artistes. Il devient l'ami de peintres d'avant-garde comme Braque ou Picasso. Et il aime les arts plastiques. Il pratique par exemple le calligramme. Il publie Alcool en 1913. C'est un recueil avec des poèmes très différents les uns des autres, mais qui sont marqués par une volonté de rupture avec la poésie traditionnelle. Et on considère généralement que Guillaume Apollinaire est un des poètes qui va fonder la modernité de la poésie au XXe siècle. Un des fils conducteurs du recueil est la thématique des amours malheureuses de Guillaume Apollinaire. Cette thématique, nous la retrouvons dans le poème que nous avons ici à étudier, donc Le Pont Mirabeau, puisqu'il s'agit d'un souvenir qui évoque sa relation amoureuse avec une peintre de l'époque, Marie Laurencin. Je passe ensuite à la présentation du poème. Alors, ce poème est marqué par une forme de modernité, puisqu'il n'y a pas de ponctuation, ce qui permet de donner une certaine ambiguïté aux phrases employées dans le poème. On peut comprendre le poème on peut comprendre les propos d'Apollinaire dans différents sens. Et il y a aussi un caractère visuel et des sonorités très marquées dans ce poème. Le thème du poème est donc une complainte qui va évoquer donc la rupture d'Apollinaire avec Marie Laurencin. C'est l'un des poèmes les plus célèbres d'Alcool. Guillaume Apollinaire avait pour habitude de donner rendez-vous à Marie Laurencin sur le pont Mirabeau. Donc il contemple la scène et repense à son amour perdu. Donc sa forme est très particulière. Il s'agit d'une chanson, donc avec des couplets et un refrain. Les couplets sont présentés sous forme de quatrains, avec des vers hétérométriques de 10, 4, 6 et 10. Cependant, si on additionne les deux vers du milieu, en 4 et 6, on obtient 10. Ce qui fait qu'en fait, en réalité, Guillaume Apollinaire avait commencé par composer des quasi-syllabes, donc des vers de 10 syllabes, et puis il a coupé celui du milieu en deux, ce qui fait qu'il y a une rime qui se trouve orpheline, qui est toute seule au milieu du quatrain. On a également un distique, donc une strophe de deux vers, qui est l'équivalent d'un refrain. On peut se demander alors comment la forme lyrique de la chanson renouvelle dans ce poème les thèmes traditionnels de la fuite du temps et de l'amour perdu. On peut diviser ce poème en trois mouvements. L'invitation à se souvenir, la strophe 1 et le refrain 1, puis la remémoration de l'histoire d'amour, donc strophe 2 et 3 avec les refrains associés, puis le constat du temps qui passe, strophe 4. Alors le titre, donc Le Pont Mirabeau, il souligne l'ancrage dans la ville de Paris, qui est une ville qui est très présente dans le recueil d'Alcool, et le pont est vraiment l'élément de stabilité et de pérennité dans le texte, qui est associé en antithèse à l'eau qui s'écoule. On va le voir dès la première strophe. En effet, dès le premier vers, le poète installe le cadre spatio-temporel, donc Le Pont Mirabeau, la scène avec deux compléments de lieu. Mais on va perdre ensuite dans la suite du poème cet ancrage dans la réalité, puisque le poète va se centrer sur l'expression de ses sentiments personnels, donc sur une forme de lyrisme qu'on retrouve dès le début du poème, avec l'énonciation à la première personne, le vocabulaire du sentiment amoureux, amour, joie, peine, qu'on trouve dans cette première strophe, et la thématique nostalgique de la fuite du temps et de l'amour perdu, alors illustrée par le mélange des temps. En effet, on a tout d'abord dans le vers 1 un un présent à valeur généralisante. On dit aussi présent d'éternité, sous le pont Mirabeau coule la Seine, et qui s'oppose avec l'imparfait du vers 4. La joie venait à l'imparfait du vers 4. Donc. On remarque dès le départ deux éléments qui vont structurer le poème, l'immobilité et le mouvement, donc, et aussi une opposition entre ce qui est éternel et ce qui est insaisissable. On peut remarquer dans le vers 1 que le vers coule est au singulier, donc ça permet de séparer le vers 1 du vers 2. Cependant, à l'oreille, on pourrait très bien entendre que ce qui coule, c'est la Seine et nos amours. Donc il y a une forme d'ambiguïté qui est favorisée par l'absence de ponctuation dans le poème, en tout cas à l'oral, pas à l'écrit. Le vers 3, lui, évoque le souvenir, faut-il qu'il m'en souvienne, mais Guillaume Apollinaire va utiliser la neutralité du pronom « il » et l'inversion du sujet du verbe « faut-il » place le poète comme étant passif, et presque dans la position de regretter d'être assailli malgré lui par les souvenirs. On peut remarquer la déconstruction grammaticale de « et nos amours » au vers 2. On ne sait pas en fait si c'est le séri de « faut-il » ou bien si c'est « la joie venait toujours après la peine ». On peut remarquer qu'il y a une disposition typographique particulière, puisque... Et nos amours est mis en valeur puisque c'est un vers qui est sur un rythme plus court de 4 et donc qui est mis en valeur. Et on peut remarquer également qu'on va avoir une série d'enjambements qui sont récurrents dans tout le poème et qui commencent dès cette strophe 1. Enfin, dans le vers 4, le souvenir bien présent évoque une relation passée qui est renforcée par l'adverbe « toujours », qui est hyperbolique et qui va accentuer ce regret ressenti par Apollinaire. Alors, si on passe ensuite à l'étude du refrain, autrement dit du distique, on peut voir qu'il s'agit d'un refrain qui est consacré à un thème courant dans le lyrisme, qui est le « tempus fugit », donc le temps qui passe. C'est un vers impair, donc en heptasyllabe. D'après Apollinaire, c'est un verbe très musical. Et donc, chaque syllabe se détache comme les heures marquées par la cloche de l'église, avec le son N, souviens ou peine. On peut aussi... avec le son heure, demeure. On peut aussi imaginer que sonne l'heure est à prendre au sens figuré. En effet, quand l'heure de quelqu'un sonne, c'est qu'il est mort. Le champ lexical du temps, avec nuit et heure, est marqué par un mouvement opposé. Vienne la nuit, et les jours s'en vont. Donc l'une arrive, les autres s'en vont. De la même façon, le jeu au singulier s'oppose avec les jours au pluriel, qui semble indiquer une solitude du poète après sa rupture avec Marie Laurencin. On peut remarquer que des échos se créent entre les mots, donc souviennent, viennent dans le refrain, avec le M de demeure ou sonne, donc le son N qui semble prolonger le son de la cloche. Et enfin, viennent et sonnent sont deux subjonctifs, que viennent, que sonnent, à valeur de concession, qui veut dire même si la nuit vient ou même si l'heure sonne. Cela peut sembler traduire la résignation du poète devant la fuite du temps. On peut aussi penser que ce sont des souhaits ou des désordres, des injonctions du poète. Alors, dans la seconde strophe, donc le pont, comme dans tout le poème, incarne la stabilité. Ici, il est représenté de façon figurée par le lien amoureux qui est mis en scène, avec un double parallélisme. Un parallélisme d'abord dans la construction syntaxique, main dans les mains et face à face, mais aussi dans le rythme, puisqu'on va avoir un rythme binaire, main, face, main, main, face, face, restons, restons, qui évoque le couple d'amoureux. Et les mains dans les mains montrent la symbiose du couple. L'image semble figée, ou plus exactement, Guillaume Apollinaire montre une volonté de perpétuité de ce pont créé par les mains des amoureux. Et il y a un redoublement de cette image du pont, puisque cette image est reprise dans le vers 3, le pont de nos bras passe. Associé à la préposition sous des éternels regards longs silas, pardon, tandis que sous, excusez-moi, et en fait, elle est mise en relief cette préposition sous par la disposition typographique du poème, puisqu'on tombe sur le vers de quatre syllabes, tandis que sous. Et donc, en fait, c'est cette mise en valeur de cette préposition sous. Rend clair en fait la comparaison entre le couple qui se tient les mains et la structure elle-même du pont, puisque l'eau passe sous le pont. Alors on peut relever toutes les oppositions qui figurent dans cette strophe, en particulier cette opposition est marquée par la conjonction de subordination tandis que, et le temps est marqué par cette opposition. Il y a une opposition en effet entre restons passe et éternel las. Enfin, il faut s'attarder sur le substantif onde, qui veut dire eau dans un langage soutenu et qui insiste sur la qualité de mobilité de l'eau. On peut aussi remarquer qu'elle est personnifiée cette onde puisqu'elle est lasse. Et donc, elle est lasse parce qu'elle a reflété les regards des couples d'amoureux, comme le couple qui se tient la main dans la strophe. Et donc, elle connaît la fragilité de l'amour. Alors, le distique, c'est le même refrain que dans la première occurrence, mais on peut imaginer qu'il a une tonalité et un sens un peu différent après la deuxième strophe, parce que l'évocation du couple, assez marquée dans la strophe 2, peut permettre d'interpréter le refrain comme une complainte vraiment personnelle. On peut y percevoir un sentiment de lassitude éprouvé par le poète, dont le couple n'est plus qu'un souvenir. Alors, dans la strophe 3, l'illusion donc, de ce couple qui en fait a vécu de nouveau le temps d'une strophe est passé, le poète se retrouve seul, l'image qui prime, qui ouvre cette strophe, c'est l'amour s'en va, et donc ce mouvement de l'amour, qui était auparavant le mouvement de l'eau, contraste avec le je demeure du refrain, et avec l'image figée du couple qu'on a dans la première strophe. L'eau courante donc, est un motif répété dans ce poème, avec par exemple la Seine, l'onde ou ici l'eau courante. Alors violent est un paronyme de vie et lente, et en fait c'est un mot qui détonne un petit peu dans ce poème qui est relativement doux. C'est un mot auquel on ne s'attend pas. Ce qui est qualifié de violent, c'est l'allégorie de l'espérance. Il y a une majuscule en effet à espérance, et donc c'est le seul mot dans tout le poème qui est tourné vers l'avenir, et c'est un mot qui normalement est positif, mais en fait ici il est négatif, et donc l'espérance en fait détruit le poète. Elle a, dans ce poème, cette espérance a un sens négatif. On remarque aussi que la monotonie auditive qu'on avait dans les trois premiers vers est rompue ensuite dans cette strophe. En effet, dans tout le poème, on a vraiment une assonance en « ou » qui est très marquée. Il y a 18 occurrences de ce son « ou ». Et ici apparaît le son « i » qui est strident et qui s'oppose donc avec la sonorité « ou » les autres sonorités sourdes du poème. Donc en « i », ici, on va avoir « vie »,« violente ». On ne commentera pas le refrain, puisqu'on a déjà donné tous les éléments qui sont importants au sujet de ce refrain, et on passe directement à la quatrième strophe, qui insiste en fait sur la victoire du temps qui a tout emporté. On a en effet un polyptote. Donc un polyptote, c'est l'usage du même mot dans des formes différentes, avec passe, passé. On remarque que l'énonciation évolue, puisqu'il y a la disparition en fait de l'énonciateur. Il n'y a plus de jeu dans le poème. Par contre, on a des négations de plus en plus récurrentes, ni temps passé, ni les amours. Et donc, en fait, on a un cycle éternel qui emporte avec lui même la voix du poète, ou en tout cas sa présence dans le poème. On peut remarquer donc un jeu sur les répétitions, passe les jours et passe les semaines, hein, qui marque une impression de répétition. Passe est en tête des deuxièmes stiches de ce décasyllabe dans le début de cette première strophe. Et on peut remarquer également que dans cette strophe, il y a une allitération forte en R avec jour, amour, reviennent, Mirabeau, qui marque une nouvelle sonorité. Enfin, le dernier vers reprend le premier pour refermer la parenthèse de l'amour du poète et de Marie-Laure Anssin, alors que la scène, elle, coule toujours. Hein, ce distique qui revient encore une fois est comme une clôture, mais qui va montrer un cycle éternel, puisqu'il marque la fin du poème et qu'il est très répétitif. Alors, en conclusion, dans le pont Mirabeau, Apollinaire a, en termes de forme, su se tenir à un lexique très simple. Et il a favorisé aussi cette simplicité en choisissant la forme de la chanson, qui est donc un genre assez populaire. Et on a une impression en fait de monotonie par les nombreuses répétitions qui ponctuent ce poème. On peut remarquer aussi que Apollinaire privilégie vraiment une musicalité très forte avec le son ou qui apparaît 18 fois. On l'a déjà dit, mais dans des mots clés comme sous, cool, amour, souvienne, toujours, jour et courante, et avec les rimes qui sont féminines. Ce qui n'est pas habituel en poésie. On remarquera enfin que la ponctuation permet d'enrichir le poème, puisqu'on peut, dans différentes phrases, donner différents sens à ce qui est évoqué dans le poème. Tout cela, en fait, fait que Guillaume Apollinaire renouvelle un lyrisme qui puise ses sources dans un terme traditionnel qui est celui du temps qui passe. On pourra enfin noter que ce poème a vraiment un pouvoir de sortilège, puisqu'en fait, on a l'impression que Guillaume Apollinaire est prisonnier de son sort, mais qu'il se l'est lui-même lancé à travers ce poème. Enfin, on pourra faire une ouverture en évoquant tous ceux qui ont suivi Guillaume Apollinaire sur la voie de la modernité en poésie, par exemple Jacques Prévert et son recueil Paroles, qui s'inspire d'Apollinaire.